je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Et je dis oui à Zoom Écologie sur 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes avec la bande La Bébé ce soir, pour ce jeudi de 20h30 à 21h30. Alors là, c'est un peu le bordel, on vient juste de fermer la porte. Autour de la table, on a... Bon, on a la bande à Bébert, donc on a Clément là-bas, micro salut, salut. Bleu, micro noir, on a Khaled.
Salut.
On a le squatteur du jour.
Il a pas de micro.
C'est Alec.
Salut.
On a notre compositeur aussi, il y aura un petit morceau tout à l'heure, Raphaël.
C'est... Oh, il est timide.
C'est Raphaël. On a de la bande à Bébert, on a Rebecca.
Bonsoir.
Florian, moi au micro orange. On a notre invité, Stéphania. Au micro jaune.
Salut.
Et on a derrière la bulle, oh, on a doublette technicienne avec Élise et Cyril derrière là-bas. On les entend pas, mais ils crient très fort. Voilà. Et comme on est autofinancé et qu'ils nous aident toujours pas, on commence direct en fait avec la minute du démantèlement publicitaire. Khaled, à toi.
Alors déjà, la minute de démantèlement publicitaire, qu'est-ce que c'est? C'est donc une nouveauté. On va essayer de faire en sorte qu'à chaque mois, quand on va passer avec la bande à Bébert, on va faire la minute anti-pub ou la minute de démantèlement publicitaire. Alors comment ça a démarré tout ça? On va commencer en démantèlement justement les médias avec publicité. Et surtout les médias dits gratuits, donc qui sont financés à 100% par la publicité, contrairement à nous, AFPP, où il n'y a aucune publicité qui nous finance à part la taxe. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qu'on a déjà contre la publicité en soi? C'est à la tienne, c'est que la pub manipule ses spectateurs par différents stratagèmes. Et en plus, donc, le système publicitaire est envahissant, agressif, manipulateur, et colonise donc nos désirs et notre imaginaire et notre cerveau. Donc voilà en fait ce qu'on a un peu contre la pub qui en gros nous incite à consommer, consommer, consommer. Et du coup, on lui dit merde en gros. Et on lui répond justement en disant que voilà, on gaspille trop d'énergie et par rapport à la presse écrite donc avec les gratuits, donc trop de papier. Donc déjà pour le gratuit, en fait, il faut savoir que la publicité ça coûte environ 500 € par personne par an. Donc les journaux dits gratuits ne sont pas vraiment gratuits en soi, puisque en fait, finalement, on répercute les prix dans les produits de consommation. Donc on paye de toute façon toujours la publicité. Et d'où il est nécessaire justement qu'il y ait des espaces aussi donc, d'information sans publicité, où on peut critiquer, où les médias peuvent donc critiquer la publicité, enfin les systèmes économiques donc, qui vont faire de la publicité aussi. Et ces médias-là ne pourront pas le faire. Donc du coup, en fait, ça a commencé en analysant en fait, les journaux dits gratuits. Donc surtout, je prends le stéréotype même, c'est Bolloré Matin.
Bolloré Matin.
Bolloré Matin.
On ne doit pas prendre les mêmes métros, là.
Direct Matin. Donc j'ai fait un petit calcul pour voir un peu le gaspillage de papier qu'il y a dans ce genre de journaux. En gros, en fait, sur 32 pages, il y a 32 pages, je les ai comptées une par une, et sur 32 pages, il y a 16 pages et demie donc de publicité et 15 pages et demie de soi-disant information. Donc il y a plus de pages donc de publicité dans ces journaux-là que de pages d'information. Et encore plus, là, j'ai regardé tout à l'heure le direct soir, ils avaient 50 pages dont juste 14 pages d'information en fait dessus.
On appelle ça aussi un sac à pub quand on est poli.
Exactement. Élise, qui est derrière là-bas, m'a dit on devrait appeler ça pub matin et pub soir. Je pense que ça lui irait beaucoup mieux. Donc chacun a sa petite sensibilité et fait ça. Et en fait, comment ça m'est venu cette idée, c'est que en fait, ce que je fais moi, c'est depuis j'ai fait un événement en fait avec Scope le pavé qui font des ateliers en fait de décodage de langue de bois. Et il y en avait qui avaient décodé les médias. Et du coup, bah, ce que je fais, c'est que, et grâce à Élise aussi qui a eu cette idée, c'est qu'on barbouille en fait les journaux dits gratuits. C'est-à-dire qu'on arrive, on regarde et on démantèle en fait tous les mots qu'il y a dedans et on laisse ça pour que notre prochain sache comment ces journaux les manipulent.
Et du coup, là, tu nous as choisi quoi là pour aujourd'hui là? Donc aujourd'hui... ta minute pub a fondu en 30 secondes pub.
Donc, déjà, c'était déjà de démanteler les médias publicitaires comme celui-là, de dire comme quoi ils nous manipulent à ce niveau-là. Et en plus de ça, donc aujourd'hui, là, Clément, tu peux me donner justement ce petit journal magnifique.
Tiens, informe-toi.
Donc si on avait la vidéo, comme d'autres médias de radio, et eux, ils ont la vidéo, on pourrait voir cette magnifique puce. Tu peux nous la décrire vite fait.
Donc alors, cette magnifique puce, c'est une publicité de Total. Ouh là là, on en a beaucoup parlé ici. Donc c'est une publicité en fait où ils montrent un gars en haut et une fille en bas. Donc le gars en haut et la fille en bas, hein, bien sûr, les femmes c'est toujours en bas et les mecs en haut.
Enfin, décrit comme ça.
Oui, bah, c'est comme ça en tout cas qu'ils le montrent. Le mec est habillé en bleu et la fille en rose. Donc vous voyez, stratégie de manipulation, la division des sexes, les stéréotypes qu'ils reprennent. Et en plus, il y a des bulles qui les représentent. Donc la fille, elle a une bulle en violet pour elle, hein, toujours, hein, pour les filles, et en bleu pour le mec, toujours en haut avec les panneaux solaires photovoltaïques. Et ils sont tous les deux souriants, hein, c'est toujours en GX, c'est beau en fait ce que Total fait. Bon, ils décrivent rien sur leur produit en soi. En fait, cette fille fait de la recherche au développement, et lui, c'est un mec qui vend donc du solaire. Et en gros, quand on regarde dans les détails, en fait, ils font de la recherche et développement pour que l'énergie solaire soit plus compétitive et accessible à tous. Donc voilà ce qu'ils font en ce moment. Et surtout, en fait, ce qui a attiré moi plus mon attention, c'est une petite phrase qui est en bas. C'est en gros, en fait, il y a deux slogans. Il y en a un où il y a écrit « L'énergie est notre avenir, économisons-la », en tout petit. Et un autre où il y a écrit « Notre énergie est votre énergie ». Du coup, je ne comprenais pas. Je me suis dit « Merde, il y a deux slogans ». Là, vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Surtout que « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». Je me suis dit « C'est étonnant de la part de leur part de faire ça. » Et en fait, j'ai découvert en faisant une petite enquête sur le net, comme tout le monde, que c'était imposé par un décret du 28 novembre 2006 que toute publicité sur l'énergie soit accompagnée d'un message éducatif. Donc l'énergie est notre avenir et économisons-la. Donc en fait, c'est une obligation légale qu'ils fassent ça et ça ne devait pas leur apporter beaucoup d'argent, je pense. Du coup, ils ont rajouté justement cette petite phrase. Il ne faut pas oublier aussi que Total...
On la retrouve en fait dans tous les fournisseurs d'énergie.
Dans tous les fournisseurs et en fait, même dans toutes les formes de publicité, marketing direct, mailing, etc. Ils sont obligés de mettre ça à la télévision et tout ça. Donc en gros, voilà pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de pub, ce genre de phrase intelligible dans ce genre de truc. Et surtout, bon, Total, on a déjà parlé, hein, c'est quand même un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a eu des émissions sur le camp Action Climat là-dessus, donc climat, voilà. Je vous renvoie vers ça, vers notre site internet.
Sinon, du coup, la pub, ça me fait penser, je suis passé dans le métro il n'y a pas longtemps, j'ai vu ces gros machins, ces grosses télés gigantesques, t'avais deux mots à toucher parce que j'ai vu que c'était un peu, il y avait des choses dessus collées, enfin j'ai
oui,
pas bien
alors,
compris.
En fait, déjà, c'était ces petites télés en fait, qui sont un peu partout, ça, par rapport au gaspillage d'énergie, ça consomme l'équivalent donc, d'une famille chacune. Je crois, c'est, si je ne me trompe pas.
C'est-à-dire un foyer par an
Un foyer par an, voilà, à peu près. C'est pas ça, non ? Élise, peut-être que tu peux corriger ?
Je crois que c'est l'équivalent de trois foyers de quatre personnes. Un écran de publicité consomme autant que trois foyers de quatre personnes.
Merci Elise. Donc du coup en fait en gros en fait sur ces publicités en fait là il y a aussi un écran qui nous observe à l'intérieur qui identifie notre sexe et là où se pose notre regard quand on passe devant. Donc c'est vraiment très énervant en plus déjà dans le métro il y en a plein. Et hier donc il y a eu une action anti-pub dans le métro, il y a le communiqué devant moi là, c'est tout frais et en fait il y a eu 118 panneaux qui ont été touchés dans 16 stations. Donc vous les verrez certainement en passant. Il y a eu des autocollants qui ont été mis dessus justement avec des messages conscientisants. Il y a eu des barbouillages.
Oui. J'apprends des mots.
Justement avec par exemple une caméra avec l'écran observe votre comportement. Il y a eu aussi des messages stop pub dessus, des choses comme ça. Où des militants donc, ont manifesté leur opposition. À ça, vous pouvez avoir plus d'infos en allant sur danger-6. écranpub.tk.
Voilà, donc je vous invite complètement à aller regarder un petit peu là-dessus pour vous informer plus longuement. Bon, bah du coup, là, en fait, c'était un pré-apéro. Donc là, on rentre direct dans l'apéro-presse. Dans l'apéro-presse, deux choses. BNP Paribas, qui s'y viennent foutre là-dedans. Et puis, on a blocage d'un train. France-Allemagne, c'est ni... comment ça s'appelle ? L'ICE, c'est le TGV allemand. Mais là, on enchaîne directement en fait, par une animation. En fait, je ne sais pas dans quelle banque vous êtes, mais est-ce que vous savez où part votre argent, chacun de vous autres, dans vos banques ? Moi, je crois qu'il y a Greenpeace en fait, qui a une petite idée un petit peu de où part, en tout cas, les gens qui sont chez BNP Paribas. Élise ? Alors là, on a un petit problème. Il y a eu un petit moment d'absence. Alors en fait, c'est une petite animation en fait qui a été qui est proposée. le grand silence bancaire. Hein. Enfin, c'est la grande question. Mais que font les banques ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut. Ce qu'on fait, est-ce qu'on décale du coup dans la bulle technique C'est bon, c'est parti. Alors voilà, hein, on est.
On enchaîne sur le train alors.
On enchaîne sur le train dans ce cas-là. Et alors là, c'est Cyril qui du coup court dans les couloirs pour venir nous rejoindre et qui va prendre le micro noir, pas en pile, il est juste à côté. Et donc en fait, je ne sais pas si vous avez été au courant, vous avez peut-être vu aux informations, il y a eu un train notamment transportant des déchets ionisants, c'est le terme exact, qui allait de France en Allemagne. Cédric, Cyril, tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'il y avait dedans, pourquoi, qui, quand, quoi, c'est quoi ces blocages. J'ai vu qu'il y avait même des moutons sur la voie.
Ouais. Alors d'abord, on écoutera la BNP un petit peu après, du coup, je pense qu'on va essayer de la repasser plus tard, un petit problème. Donc ouais, de France en Allemagne, c'est-à-dire de la Hague à Görlöben. Alors pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, c'est des déchets nucléaires allemands, de centrales nucléaires allemandes. Et bah, pourquoi bloquer ce train ? Est-ce que c'est parce que les Allemands ne veulent pas que leurs déchets reviennent chez eux ? Ou est-ce que c'est parce que les Français...
Alors du coup, c'était des déchets produits en Allemagne qui sont en lettres. Qu'est-ce qu'ils foutaient en France ?
C'est parce que la France, depuis des années, tient un discours sur le nucléaire, qui est celui du retraitement, qui présente comme une sorte de recyclage.
Ah oui, parce que moi j'ai vu la pub d'Areva, tout est recyclé.
Voilà, c'est-à-dire que quand on entend Anne Lauvergeon parler, les déchets seraient recyclés. Alors en fin de compte, c'est un retraitement, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de revaloriser une partie des déchets. Ce qui est déjà un peu différent. Donc à La Hague, donc un site extrêmement pollué, enfin c'est-à-dire qui émet beaucoup de pollution radioactive, c'est une usine qui est quand même autorisée à polluer plus de 1000 fois plus qu'un réacteur nucléaire, donc dans les niveaux admissibles de radioactivité fixés par la loi. Donc bah voilà, chaque année toute cette radioactivité est rejetée dans la mer du Nord. En particulier, il y a eu pas mal de mesures de Greenpeace là-dessus. Alors qu'on sait que ces niveaux admissibles, à côté de ça, la Commission internationale de radioprotection a défini que toute dose de rayonnement comporte un risque cancérigène ou génétique. Donc en réalité, qu'est-ce qui est retraité ? Donc d'abord, il y a un tiers qui n'est pas retraité, qui va rester entreposé et qui va être vitrifié. C'est-à-dire qu'on va enrober le plutonium dans du verre pour pas que les radiations passent, enfin en tout cas moins. Deux tiers vont être retraités, c'est-à-dire séparés, sachant qu'il y a une partie qui va s'accumuler et un peu de plutonium qui va être récupéré, lui, pour être incorporé à du MOX. Donc, qu'est-ce que c'est du MOX ? En fait, le MOX, c'est de l'uranium classique avec un peu de plutonium dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on va réutiliser un peu de plutonium dans de l'uranium classique. Et à la fin, on va récupérer quoi ? Et bah, toujours du plutonium.
Et puis toujours
les déchets classiques.
On est toujours dans des produits qui sont radioactifs.
C'est-à-dire qu'en gros, on est toujours dans des produits qui sont radioactifs. On est toujours dans du déchet. On réutilise que quelques pourcents du plutonium qu'on va intégrer au combustible classique. Donc c'est ce que Areva appelle le recyclage, le retraitement. Donc il y a aussi un autre but qui est un peu moins avoué, c'est que de séparer le plutonium du reste des déchets, ça permet de le récupérer à usage militaire, puisqu'avec le plutonium on fait des bombes atomiques. Donc voilà, c'est un petit
donc
peu.
Voilà, alors, donc du coup, il y en a une partie qui repart en retour à l'envoyeur.
Donc,
hein, c'est ça.
Donc voilà, un peu la Hague sert de poubelle nucléaire à toute l'Europe qui envoie ses déchets pour être donc retraités. Et ces déchets repartent, concernant l'Allemagne, une partie de ces déchets repartent tous les ans, ou à peu près tous les ans, à Görlöben, donc qui est un site de stockage qui ne répond pas aux normes. Enfin bon, il y a pas mal de problèmes.
Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui s'est passé ? Donc il y a ce train qui est parti là il y a quelques semaines, enfin,
alors,
même
donc,
quelques jours.
Donc voilà, il y a eu une série d'actions, de blocages, de manifestations. Donc ça a commencé en France avec un blocage du GANVA, donc c'est le groupe d'action nucléaire anti-violente, anti-nucléaire, donc qui a bloqué le train pendant 3 heures et qui a subi une répression. Ils ont été désincarcérés violemment des voies avec 3 blessés assez graves et passent en procès le 8 décembre. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Il y a eu des grosses manifestations en Allemagne aussi, des blocages. Tu parlais de moutons, donc effectivement dans la zone autour de Görlöben.
Je parlais pas des gens, hein, c'est des vrais moutons.
Voilà,
hein.
Des vrais moutons. Alors là, c'est pas le train qui a été bloqué, c'est la route, les 20 derniers kilomètres qui séparent la dernière gare de Görlöben. Il y a 20 kilomètres en camion avant la fin. Et donc la route a été bloquée par des tracteurs et par des troupeaux de moutons et de chèvres, effectivement. Et
du coup, tu nous parlais de procès, là.
Donc, on va reparler un petit peu du Gamba. Donc, eux, ils ont bloqué le train pendant 3 heures. Donc, ça consiste à s'enchaîner, à se bloquer les bras sous le ballast, c'est-à-dire sous les cailloux, sous le rail. Et donc, en les dégageant, les flics ont blessé 3, donc avec des brûlures graves et un qui a eu les tendons sectionnés. Et comme si ça suffisait pas, il passe en plus le 8 décembre en procès pour entrave à la circulation et outrage et rébellion sur agent. Voilà.
Et du coup, tu nous as prévu un petit enregistrement parce qu'on avait envoyé très spécial.
Un petit bout d'une interview qui a été réalisée par une camarade de radio de Canal Sud avec François du Gamba qui nous parle un petit peu des conditions judiciaires, etc.
Je peux pas descendre. Pas descendre.
Alors que 7 d'entre eux se retrouvent inquiétés par la justice, les 3 membres blessés déposent une plainte contre X pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.
C'est une discussion à choix entre nous pour ne pas laisser passer ça en fait. On a l'impression qu'on n'a vraiment pas d'autre choix que d'engager ce recours-là. Aussi parce que si la première réponse juridique, la première réponse répressive est assez forte, c'est peut-être parce que ces faits-là, ces blessures-là ont eu lieu. C'est un peu comme les forces de l'ordre habituellement qui blessent ou malmènent des gens dans des manifestations ou lors d'arrestations. Parfois, les forces de l'ordre accusent ces personnes d'outrage et rébellion. C'est une façon de contre-attaquer. Donc nous, c'est un peu ne pas laisser passer l'attaque juridique qui nous est faite et de dire mais qui est le plus responsable dans l'affaire, qui a fait le plus de fautes. C'est probablement les forces de l'ordre qui ont blessé les gens. Et puis, ce serait aberrant de laisser passer ça. Donc on n'a pas vraiment d'autre choix que de faire valoir nos droits aussi, faire valoir les droits des personnes blessées. Pour ce qui est des blessures, des dommages et intérêts potentiels qu'on est en droit de demander pour ces faits-là, surtout qu'on a vraiment tout un faisceau de preuves, de témoignages, de ressentis qui fait qu'on est persuadé que les forces de l'ordre ont agi d'une manière délibérée. Elles ont un peu insulté les gens au moment de les désincarcérer, elles ont proféré le genre de propos si t'es blessé, si tu as mal, t'avais qu'à pas être là, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est tellement scandaleux qu'on décide de porter plainte. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on souhaite se victimiser. On cherche à rester positif sur la mobilisation qu'il y a eu. Cette action-là, elle a eu lieu dans le cadre d'une action d'action internationale. En Allemagne, ils se sont mobilisés, mais d'une manière massive jamais vue. Et donc, comme le disait un de nos slogans sur les banderoles, notre résistance ne connaît pas de frontières. Et donc, c'était une manière de lancer, d'être le premier acte de mouvement sur plusieurs jours. Et donc, pour ne pas rester sur une bonne note, c'est d'essayer de faire tout pour obtenir gain de cause là-dessus et politiquement et même moralement, on en sortira grandi si on obtient gain de cause là-dessus. Après, on n'est pas dupe non plus des freins qui existent dans la justice pour ne pas condamner les forces de l'ordre, mais en tout cas, on fera tout pour on saisira les différentes juridictions, les différentes la Commission nationale de déontologie par exemple. Pour faire reconnaître ce qu'on peut appeler une bavure.
Rendez-vous est donc donné pour soutenir les membres du GANVA. Au tribunal de grande instance de Caen, le 8 décembre, à partir de midi, plus d'informations sur internet, ganva.blogspot.com.
Je ne peux pas descendre.
Et voilà, et on entend, excuse-moi, on entend le « je ne peux pas descendre, descendez sinon ça va mal se passer ». Donc ça, c'est, c'est la vidéo au moment de la désincarcération où on voit les flics bâcher, cacher leur... leur méfait et donc pendant menacer le militant. Donc juste rappeler le procès, ce sera le 8 décembre au tribunal de grande instance de Caen à partir de midi. Et alors si vous êtes aux alentours de Rennes, il y aura deux concerts ce week-end. Voilà, plus d'informations sur le site du Ganva. Et juste dire que la somme a été... donc ils n'ont pas fait de prison, en tout cas en attente du procès, puisque la somme de 16 500 euros a été récoltée.
Super. Moi j'ai beaucoup aimé la phrase, là, on l'entend à un moment donné, hein, notre résistance ne connaît pas de frontières, c'est quand même un bel exemple, une résistance, en tout cas... pas que franco-allemande, hein, puisqu'en fait, on a constaté qu'il y a fait effectivement une mobilisation quand même européenne sur l'ensemble de la ligne.
Hein. Je pense qu'on attend encore des actions aussi de soutien et de solidarité des Allemands.
Ouais. Ok, tant qu'on est dans la radioactivité, en fait, on a invité un compositeur, un jeune compositeur qui nous a composé un petit morceau en piano solo. C'est en quoi? C'est en sol, en fa? Je sais pas, j'y connais rien. Mais du coup, ça dure une petite minute 30, ça s'appelle radioactivité. J'adore le jeu de mots. C'est parti, on écoute. Et donc, on dit oui à la radioactivité ou non, je ne sais pas. Et on a invité, donc on a notre jeune compositeur, c'est Raphaël. Alors Raphaël, quel âge tu as ?
8 ans.
Tu as 8 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi écrire justement sur la radioactivité ? Ça ne t'inspire pas plus que ça ?
Non, parce que...
Tu nous racontais tout à l'heure que c'était peut-être parce que c'est quelque chose qui te parlait ou qui t'inquiétait, la radioactivité ?
Non, c'est que, en fait, c'est que j'aimais ce que ça me fait penser à Star Wars, en fait.
Ah, ça veut dire que c'est sombre et puissant comme Star Wars. Bon, eh ben écoute. Tu nous composeras une nouvelle chanson, peut-être sur l'eau, sur la thématique qu'on va aborder un petit peu tout à l'heure. En attendant, est-ce que le BNP Paribas, est-ce qu'il est passé, est-ce que l'animation sur Greenpeace, Élise, fais-moi signe, tu dis oui, non? Oui, bah c'est parti. Alors, est-ce que du coup, parce que notre squatter avait un message à faire passer justement sur les banques, il aura 15 secondes pour le dire. Élise?
C'est minuté.
Du coup, hein, c'est...
Ce que votre banque fait de votre argent. Monsieur Dupont va à la banque. Monsieur Dupont donne son argent au banquier, la BNP. L'argent de Monsieur Dupont va dans un coffre. Dans ce coffre, la banque met aussi l'argent d'autres clients, l'argent investi par les actionnaires et l'argent gagné avec les revenus des opérations bancaires. La banque utilise l'argent du coffre qu'elle complète avec de l'argent emprunté à d'autres banques pour financer diverses activités. Cet argent va d'abord servir à financer l'économie locale, les crédits aux ménages et aux PME, ou encore les services publics. La banque utilise aussi cet argent pour des opérations purement spéculatives et des prêts à d'autres banques. L'argent remis à la banque va enfin financer les projets de grandes entreprises multinationales, comme l'extraction de pétrole ou encore les centrales nucléaires. En temps normal, le banquier calcule, prévoit, estime les risques pour rentabiliser au mieux son placement. Et dans certains cas, comme pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, ces projets sont tellement risqués que la banque ne veut pas les financer. C'est donc l'État qui va garantir le prêt. Le banquier ne prend donc aucun risque. Et comme le banquier n'assume pas le risque, il ne l'évalue pas. Il finance donc des projets dangereux à travers le monde. Par exemple, au Brésil, à Angra, à 150 km de Rio, la banque finance la construction d'un réacteur nucléaire dangereux. 70% des pièces utilisées pour ce réacteur sont stockées là depuis 1986. Pourquoi ? C'est la date de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Les banques ont donc à l'époque arrêté les financements. Les pièces utilisées pour ce réacteur à Angra sont donc aux normes de sûreté d'avant Tchernobyl. C'est pourtant ce projet que la banque de Monsieur Dupont, la BNP, veut financer aujourd'hui, notamment avec son argent. La BNP est la première banque au monde à financer des projets nucléaires. Et l'épargne des particuliers génère 45% des revenus de la BNP. Et donc, si Monsieur Dupont demandait à sa banque où va son argent ? Et si Madame Martin posait aussi la question ? Et si vous demandiez la même chose ?
Et merci à Khaled pour le montage et l'enregistrement. Et du coup, ça me fait penser que pour les prix Pinocchio, c'est une banque qui a gagné la catégorie greenwashing. Bon, en l'occurrence, c'est pas le BNP Paribas, mais c'est le Crédit Agricole. Le squatter, Alec, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus
Oui, sur les aussi, il y a les Amis de la Terre qui viennent juste de sortir la calculette CO2 sur les banques. Donc, si ça vous intéresse de regarder combien émet votre, soit vos emprunts, soit justement votre épargne, je vous invite à aller sur les Amis de la Terre et vous renseigner sur ce point-là.
Ok, et donc là, on enchaîne parce que... Alors justement, c'est marrant parce qu'autour de la table, si, devant moi, on a de l'eau. On a surtout beaucoup de bière. Mais du coup, on enchaîne sur la thématique. On a Stéphania qui est autour de la table. Clément aussi, qui a été notre envoyé très très spécial.
Je me suis glissé dans la peau d'un militant de l'eau. Apparemment, c'est une nouvelle sorte de militant. Enfin, nouvelle. On entend parler ces temps-ci. Et on a la chance d'avoir la même invitée que l'émission d'avant, vous l'aurez remarqué. Alors, c'est pas qu'on l'a réutilisé, c'est juste que c'est d'actualité. Le hasard a fait qu'on s'était donné rendez-vous aussi à Fréquence Paris Pluriel pour parler de l'eau. Voilà. Donc, si vous prenez l'émission en cours, on va peut-être essayer quand même de vous réexpliquer un petit peu le contexte autour de l'eau et la lutte actuelle sur la communauté d'agglomération Est Ensemble, qui est en gros à l'est de Paris.
Oui, parce que c'est quoi le problème c'est avec la gestion de l'eau potable.
Peut-être que Stéphania va nous présenter la situation. Tu peux peut-être nous parler de la coordination rapidement et puis un peu de la situation en ce moment, Est Ensemble.
Bien sûr, avec plaisir. Donc la coordination Eau-Île-de-France est une association qui s'est montée il y a à peu près 2 ans. Et au moment où arrivait à terme un des plus gros contrats de l'eau du monde. Et ça, c'est la grande nouvelle que personne n'était au courant, mais en fait, c'est la banlieue parisienne. C'est un des plus gros marchés de l'eau du monde. C'est aux portes de Paris, c'est chez nous. Et donc, à ce moment-là, y a eu beaucoup de mobilisations pour pas que ces contrats soient à nouveau donnés à Veolia, parce que Veolia est sur ces contrats depuis un siècle, en fait. Elle est carrément née ici et s'est construite grâce à nous, grâce à notre argent qu'on verse avec nos factures depuis un siècle à cette multinationale. Donc c'était il y a 2 ans le moment où il fallait prendre cette décision, et à ce moment-là, la coordination elle a commencé à exister. D'accord. Donc aujourd'hui, on est donc 2 ans plus tard, on est toujours sur la banlieue parisienne, mais à une échelle plus petite. Donc parce que les CEDIF, c'est 144 communes de la banlieue, donc c'est vraiment les syndicats des eaux d'Île-de-France, qui est une méga structure présidée par André Santini, qui a ses grands privilèges, parce que voilà, comme je disais, c'est vraiment un marché très important, et il le gère de main ferme, et bien il arrive à bien ramener tout le monde dans son sens.
Il n'est pas trop copain avec la gestion publique. Donc,
il n'est pas du tout copain
avec... Ça ne lui paraît pas faisable, d'après ce que j'ai compris.
Non. Il a pas. Il est très bien avec Veolia. Voilà, c'est bien. Ça donne comme ça. Les élus, ils ont qu'à signer. Et puis ils travaillent pas. Ben c'est très bien.
Juste payer quoi. C'est ça.
Juste payer.
Okay. Oui, parce que ce que j'avais pu comprendre, c'est effectivement, c'est un secteur qui est géré par Veolia ou les anciens noms de Veolia, c'est-à-dire c'était
Vivendi et Compagnie Générale des Eaux, qui existe depuis
combien de temps du coup,
depuis un siècle en fait, presque. 1923, avec voilà. Donc en fait, avec le prochain contrat, on arrivera à un siècle. On pourra fêter un siècle de Veolia chez nous.
D'accord.
Donc, super.
Dans 13 ans, on fera la fête. Mais peut-être que dans 13 ans, ils n'auront plus de contrat, puisque là, il y a eu un contrat qui a été renouvelé pour 12 ans.
Voilà. Donc il y a
au mois de juin, si je me souviens.
Au mois de juin, complètement. Et il y a une opportunité incroyable donc, pour Est Ensemble aujourd'hui. Donc Est Ensemble, c'est 9 communes de la Bailleu, plutôt à l'est.
C'est une communauté d'agglo.
C'est une communauté d'agglo, exactement. Ouais. Donc il y a dedans Montreuil, Bobigny, Bagnolet, Les Prés, Les Prés Saint-Gervais, Les Lilas. Et voilà. Je fais pas toute la liste. Et en fait, on a une occasion historique de sortir du CEDIF. Et c'est une communauté d'agglo à gauche. Donc, on était très contents de se dire, enfin, nos élus de gauche, ils vont pouvoir voter pour une gestion publique. Et non. En fait, mardi dernier, ils s'apprêtaient à voter pour une reconduction du contrat à Veolia. Ce qui est non seulement à l'opposé de leur engagement politique, mais aussi vraiment défavorable aux usagers, parce que le prix de l'eau CEDIF, c'est très cher.
C'est-à-dire, c'est très cher. On est sur quel niveau? Parce que on est quoi? On est à peu près à 2,30
euros. C'est 2,93 à Paris, et au CEDIF, on est à autour de 4,13. Donc il y a une belle différence quand même. Et en plus, dans l'eau à Paris, il n'y a pas d'aluminium, parce que l'utilisation d'aluminium est interdite depuis 30 ans pour un principe de précaution.
Alors attends, tu nous parles d'aluminium. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que vient faire l'aluminium dans
l'eau? Ils mettent de l'aluminium exprès pour empoisonner les gens, c'est ça?
C'est un peu ça, ouais.
À quoi ça sert l'aluminium? Pourquoi ils utilisent de l'aluminium dans la production de l'eau?
En fait, c'est pour décanter l'eau, pour pas qu'il y ait des particules qui troublent la couleur de l'eau dans les processus de potabilisation. Et donc, Veolia rajoute sans problème de l'aluminium. L'aluminium peut être cause d'Alzheimer.
Ça favorise la maladie d'Alzheimer,
oui.
L'ingestion d'aluminium. D'accord.
Oui, mais alors, c'est par l'accumulation que ça se fait. Donc, tous les
mais
jours,
il faut bien purifier l'eau.
Comme... Oui, mais on peut utiliser les fers. Comme Paris. Donc Paris a décidé il y a 30 ans d'interdire l'aluminium et il y a du fer et il n'y a aucun souci pour la santé.
C'est-à-dire que du coup l'aluminium c'est quelque chose qui est interdit par la loi?
Non.
Ou alors est-ce qu'il y a des
non.
seuils est-ce que l'Europe intervient dans cette affaire?
En fait elle n'est pas interdite par la loi. Il y a des seuils, mais qui ne sont pas des seuils de potabilité. Donc, en fait, on peut dépasser les seuils et puis ce n'est pas grave. L'eau est toujours potable et toujours légale. Il y a un documentaire qui est passé sur France 3 qui a fait beaucoup d'escalpeurs sur ces sujets. Ça s'appelle « Du poison dans l'eau du robinet ». Et voilà, je l'ai transcrit la partie sur l'aluminium. Si vous voulez, je peux vous lire une partie.
Bah oui, parce que voilà.
Mm-hmm. Donc, ça explique pourquoi Veolia continuait à utiliser l'aluminium. Donc, pourquoi les compagnies persistent à traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium? C'est le chercheur Jean-François Dartic, neurologue responsable à INSERM, qui va nous le révéler. Lorsqu'il publie son étude sur l'aluminium, donc en fait c'était un chercheur qui avait publié une étude qui montrait qu'il y avait un lien direct avec l'Alzheimer, il rencontre trois grandes compagnies de l'eau. Pour passer au fer, elles auraient dû changer leurs installations. Donc, pour passer au fer, donc l'autre procédé, ils auraient dû donc changer la machine, en gros. Elles ne le souhaitaient pas. J'ai discuté avec eux et ils m'ont dit à l'époque que c'était évident que ça pouvait être changé, mais que ça coûtait quand même nettement plus cher. Donc, c'est un problème économique, demande la journaliste. Et lui répond, non, on ne va pas dire ça comme ça. Mais la santé est aussi un problème économique. Il faut faire des choix. La journaliste, ça commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous voulez dire? On veut faire des choix. Il faut choisir. Soit on privilégie la santé des enfants, soit on privilégie la santé des vieux. Et il faut bien faire le choix. Donc les personnes âgées, ce n'est pas vraiment la priorité, demande la journaliste. Eh bien, il répond, non, ce n'est évidemment pas la priorité et loin encore. Donc ça veut dire concrètement que ces chercheurs qui a découvert qu'il y avait la maladie d'Alzheimer, était approché par les multinationales qui ont bien voulu lui expliquer qu'ils n'allaient pas changer la machine et qu'il ne fallait pas faire une loi qui interdise l'aluminium. Donc je vous invite à aller voir ces reportages, il est sur Internet, disponible toujours. Oui, on peut le regarder directement sur YouTube. Donc on se rend compte en fait de pourquoi c'est pas illégal alors que c'est dangereux.
Parce qu'il faut savoir effectivement que ce type de société, Veolia, c'est des vraies multinationales. C'est-à-dire, il me semble qu'on avait regardé avec Clément, ils sont premiers, numéro un, la gestion de l'eau potable au monde.
Ah ouais.
Parce qu'on les retrouve beaucoup d'appropriation aux États-Unis, notamment. Mm-hmm. Pas mal.
Partout.
D'ailleurs, du coup, on s'était amusé. Mais regardez un petit peu, parce que ça paraît pas si évident de se dire que finalement il y a de la gestion privée dans l'eau. On pourrait se dire, l'eau c'est un bien public, c'est bien universel de l'humanité. Et on a regardé un petit peu les valeurs, c'est en France, on a à peu près, il me semble que c'est 3 foyers sur 4, 3 foyers sur 4 qui est dans gestion privée. Alors qu'aux États-Unis on pourrait se dire c'est dans un système beaucoup plus privé, et il y a qu'un foyer sur 6. Qui est en gestion privée.
Oui, étonnamment, en fait, aux États-Unis, l'eau n'est pas aussi... pour les gens, l'eau est un bien public. Vraiment, enfin, aux États-Unis, culturellement, pour eux, c'est très difficile d'imaginer que ça puisse être mis dans les mains du privé.
Et on a même trouvé des pays encore pires, enfin pires, mieux, finalement, c'est les Pays-Bas, qui sont 100% en régie publique.
Oui. Et il existe plusieurs exemples en Europe, plusieurs villes qui sont revenues en gestion publique. Et la France est une exception. Donc c'est pour ça qu'on appelle la marchandisation de l'eau modèle français de gestion.
D'accord. Alors est-ce qu'ils ont exporté ça en Angleterre? Parce que du coup, en Angleterre, pour le coup, c'est l'opposé des Pays-Bas.
C'est le pire.
C'est que du privé.
Pire que la France, il n'y a que l'Angleterre, en gros. Voilà. Où en fait, ils ont privatisé jusqu'à
la
Rebecca. Ressource. En fait, ils ont privatisé jusqu'à la ressource. Chez nous, ils se défendent en disant « Non, ce n'est pas de la privatisation, c'est juste un partenariat public-privé. » Donc, en gros, oui, OK, ils n'ont pas la possession de la ressource, mais tous les 12 ans, on signe un contrat et ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, c'est à peu près pareil, quoi.
Bon, donc, du coup, Stéphania, Clément, on en est où, là, concrètement?
On aborde plein de questions sur la santé, la qualité
sur le CEDIF.
Je ne sais plus où on en était. Ouais, le CEDIF, donc, c'est 144 communes qui sont adhérentes, je crois. Et en fait, la création de la communauté d'agglomération Est Ensemble, donc 9 villes de Seine-Saint-Denis, au début de l'année 2010, ça a permis à ces 9 villes qui étaient adhérentes individuelles de pouvoir mettre en commun cette compétence de l'eau et de réfléchir en fait à comment ils voulaient la gérer.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On en est où aujourd'hui?
En fait, au début, on était contents parce qu'on s'est dit, voilà, on est dans une communauté d'agglos de gauche, donc les élus de gauche, ils vont voter pour la gestion publique. Eh bien non, on s'est aperçu que non. Ils nous ont fourni un rapport d'études bidon. Donc, on a démonté les rapports d'études bidons. Entre-temps, il y a tout un mouvement de citoyens qui est devenu expert et qui connaît le dossier mieux que les élus aujourd'hui. Et nous sommes prêts à les aider pour aller plus loin, évidemment.
Ces documents, on peut les avoir où, juste avant qu'on oublie? Il y a une adresse internet, un contact pour la coordination Île-de-France.
Coordination Île-de-France sur Google, ça marche, ça tombe sur notre blog.
Il y a des infos souvent sur le blog.
Mobilisations
à venir.
Des mobilisations, il n'y a pas tout écrit parce que bon, ça va vite. Et donc n'hésitez pas à écrire un mail, il y a le contact sur le blog.
D'accord, donc ça, en fait, ça a commencé avec des élus, quelques élus au sein de la communauté d'agglo qui se sont dit on va prendre le temps de réfléchir.
Ça a commencé avec une mobilisation citoyenne donc, qui est héritée du CEDIF et qui a fait pression pour que l'étude elle soit faite mieux, quoi, parce qu'on s'est aperçu que l'étude elle était absolument nulle et ridicule. Donc on a fait une contre-expertise et les élus ont bien été obligés d'étudier un peu plus la question ou de faire semblant.
Et pourquoi elle était ridicule, cette étude, précisément?
Parce qu'en gros, il y a deux opportunités pour rester ensemble. Soit on retourne au CEDIF, soit on se tourne vers Paris. Eh bien, ils n'ont même pas étudié Paris, quoi, les côtés Paris. Ils n'ont même pas pris contact avec Paris. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, ils ont fait un truc complètement faux, quoi, en fait.
Parce qu'on a appris que Paris, justement, est à la recherche de clients, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont une surproduction d'eau
tout
potable.
Tout le monde.
Sachant qu'ils sont à 2,8 euros le mètre cube.
En fait, oui. On est
on pourrait avoir des coûts encore plus bas. Si on rajoutait, parce que ça fait quand même une population de combien? 300, 400 000 habitants.
Est Ensemble, c'est 400 000 habitants sur les 4 millions.
C'est les 10% du CEDIF.
Considérés par le CEDIF.
Ouais. Eh bien oui, et le CEDIF est dans la même situation. Et donc là, ce qui se joue, c'est aussi à grande échelle, c'est dans le cadre du Grand Paris. Ben, comment mutualiser les services de l'eau? Parce que voilà, sortir du CEDIF et se rattacher à Paris, c'est aussi donner beaucoup plus de chances à la gestion publique en région parisienne. Ouais. Donc ça peut aller très loin. Et c'est pourquoi ils s'attachent autant à cette question et ils veulent pas lâcher l'affaire sur les CDIF, ils veulent pas nous laisser sortir de Veolia. Parce que si nous, on commence, si Est Ensemble commence à se rattacher à Paris, eh ben, il y a plein d'autres communautés d'agglos qui vont qui commencer vont, à avoir de faire la même chose. Et Veolia va perdre ici sa vitrine à l'international. Elle a déjà perdu avec Paris. Je vous ai
ramené. Parce que c'était si... Veolia qui gérait avant.
C'était moite-moite. C'était moitié Veolia, moitié la Lyonnaise.
D'accord.
C'était en tout cas, voilà, Paris, ouais. La vitrine de la gestion à la française. Et bien, ça s'est coulé sous leurs pieds. Et aujourd'hui, ils ont besoin de montrer qu'au CEDIF, tout va bien. C'est le CEDIF, la nouvelle vitrine de Veolia. Et bien, je suis ravie d'avoir filmé tout ce qu'il y a eu comme mobilisation citoyenne. Parce que ça...
Bah justement, parlons-en mobilisation citoyenne. On avait en oui, envoyé très
il y a deux jours, le 23 novembre, donc j'ai pu assister à... Comment dire, une révolte citoyenne qui a envahi le conseil communautaire d'Est Ensemble avec mégaphone, cotillon et chansons, slogans et plein de créations diverses et variées, de pancartes. Les élus n'en revenaient pas.
Ouais.
On a une petite vidéo là qu'on va pouvoir passer.
Du coup, ce sera
en audio.
oui. Bon, enfin bon.
On le passe ici en vidéo. Hein,
vous imaginez.
Si seulement bon. C'était filmé. L'émission,
il y a les images sur le blog de la coordination Île-de-France. Là, on va vous passer que le son. Puisque c'est la radio.
Le 23 novembre, nous avions rendez-vous à Romainville au Conseil communautaire d'Est Ensemble. 150 habitants étaient venus assister au vote sur la gestion de l'eau. Le président Kern et le PS, presque majoritaire, avaient prévu de voter une délibération permettant le retour au CEDIF, qui a un contrat de 12 ans avec la multinationale Veolia. Avouons que les participants étaient dans l'ensemble très favorables à une gestion publique, comme les habitants d'ailleurs, qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait engraisser le privé avec un bien gratuit dans la nature et surtout vital. Rien ne se passa comme prévu. Les gentils habitants réveillèrent les élus en chantant des chansons et en allant discuter avec eux. Les élus en étaient tout gênés et ont levé la séance. Les élus n'auront pas eu l'occasion de voter une mauvaise décision. Les habitants peuvent donc dire merci aux habitants. Ce n'est pas fini, restons citoyens.
Très important, auquel je sais les 91 conseillers communautaires sont attachés.
Nous aussi.
Nous avons eu un débat il y a 15 jours, un débat de haute tenue, un débat de qualité, un débat où un certain nombre d'arguments ont été échangés, en toute sérénité, en toute tolérance. Et je crois, entre gens responsables, oui. Et je crois que chaque élu communautaire voulait ce soir tenir ce débat dans la sérénité. Je constate que ce n'est pas possible. Je le regrette. C'est une forme d'entrave à la démocratie. Donc après avoir consulté les présidents des groupes politiques constituant la communauté d'agglomération d'Est Ensemble, je décide de reporter la séance.
Basta, Veolia. Qui c'est qu'on entendait ? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement là ? Parce que c'est le bazar. Mais il y a des choses assez intéressantes qui sont dites. Et surtout, qui on entend en fait à la fin ? On entend un monsieur qui met du temps à démarrer. Il a un ton d'élus, je pense. Non, je sais pas, Stéphania, Clément,
fait,
vous y étiez tous les deux.
Mais
parce que
oui, mais en fait, c'est
moi,
tout le monde.
Moi, j'étais avec le mégaphone sur la vidéo.
Oui.
Clément avec ton t-shirt blanc.
Mais tout le monde s'y est mis, c'est ça qui est magnifique dans cette histoire. Tout le monde s'y est mis, c'est le public qui a envahi l'espace du vote et qui a pris possession du vote et qui a dit « vous n'allez pas voter parce que la population n'a pas été consultée et cette question nous concerne tous ».
Donc là, c'était la, en fait, c'était la réunion du conseil communautaire. Hein.
C'était
donc,
le jour
élus,
du vote.
Les élus de la communauté d'Aglo qui votaient pour le passage...
Pour réadhérer au CDIF et donc à Veolia.
Êtes-vous d'accord et tout, enfin, tout le monde
sachant, qu'il aide, oui, sachant que la communauté d'Aglo, les élus ne sont pas élus.
Dessus. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'il rétorque. C'est qu'il dit genre, la démocratie est bafouée parce que nous, élus du peuple, on ne nous laisse pas parler. Mm-hmm. Ce qui n'est pas complètement vrai.
Oui. Il y a la question de la communauté d'Aglo et puis il y a la question, voilà, il y a des instances pour consulter la population, ils ne l'ont pas fait. Ils ont créé ces instances et ils ne les ont pas consultées. Enfin,
ils ne les ont pas consultées. Alors, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait
Alors, si j'ai bien lu, je crois que le code général des collectivités territoriales dit que il faut consulter pour ce genre de questions et c'était aussi dans le règlement intérieur de la communauté Est Ensemble.
Et en fait, c'est à un poil près de l'illégalité, malheureusement, parce que ce que tu dis est vrai. Donc normalement, il faut la consulter parce que c'est une délégation. Mais en fait, comme ce n'est pas directement une délégation, là, la communauté d'Aglo ne choisit pas de déléguer directement à Veolia, mais il passe par les CEDIF pour la délégation à Veolia, et du coup, il n'y a pas d'obligation légale de consulter. Mmh. Bon, ce qui est juste... Voilà, il faut vraiment passer à côté de la loi pour ne pas
Alors,
consulter
pour la
population.
Loi, d'accord, mais en fait, le fonctionnement de cette communauté d'agglomération qui s'est déclarée vouloir consulter la population, notamment sur des questions importantes comme l'eau, là, ils ont dit qu'en gros, ils n'avaient pas le temps et que du coup, ils passaient outre.
Non, ça, c'est trop drôle, ça, c'est les meilleurs arguments. Donc, c'est Bertrand Kern, le président de la communauté d'agglomération de Pantin,
parle dans les vidéos,
qui est le maire de Pantin, socialiste.
Qui est aussi le maire de Pantin, socialiste. C'est tout merveille. À la dernière réunion, alors, je le dis haut et fort, et puis il ne pourra rien dire parce que c'est vrai, celui qui l'a dit. Donc, il explique que c'est très dangereux, qu'on n'a pas le temps et qu'il faut prendre la décision tout de suite. Sinon, au 1er janvier, tous les gens à Est Ensemble, ils n'auraient plus d'eau au
c'est
robinet. Mais c'est juste... Alors...
Qu'est-ce qu'on peut faire
Mais
ça, c'est quelqu'un de responsable. Donc.
C'est vraiment n'importe quoi.
C'est alors, c'est-à-dire pour l'histoire de coupure d'eau...
Mais
alors,
c'est comme dire que le préfet d'Île-de-France est un paillasse. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Kern.
Étant paillasse.
Étant paillasse. Parce que le préfet d'Île-de-France, son rôle est justement d'éviter ce genre de choses.
Ah, c'est-à-dire qu'il peut réquisitionner la distribution de l'eau potable. Oui,
on peut pas.
Mais bien sûr, on est en France quand même.
Les 4 millions d'Est-Franciens n'auront pas de soif.
Il y a un certain nombre de principes.
Moi, je veux bien fournir mon eau, verre par verre.
Ce qui était proposé par d'autres élus, mais qui n'a pas été retenu alors du jour de ce conseil communautaire, c'était de reconduire un contrat temporaire de 2 ans pour se donner le temps de réfléchir et de voir avec Haute Paris. Non, c'est pas ça.
Oui, c'est ça.
Sauf que, évidemment, ça n'a pas été proposé. Bon, je fais les questions et les réponses. Je te laisse compléter.
Ouais, mais
non, mais je rigole, papa, parce que tu dis les vrais arguments des élus et c'est juste du théâtre, quoi. C'est trop drôle. Mais d'ailleurs, avec les citoyens, on a envie de mettre ça en scène et on va le faire. Bientôt sur toutes les places d'Est Ensemble, avec le projet Chevaux
Sauvages. Même ça, c'est bidon, selon
mais
toi.
Mais ça, c'est bidon. Attends, c'est quoi? Alors, on va retourner au CEDIF, comme ça, après, on va mieux en sortir.
Non, c'est pas ça. Non, ce que certains proposaient, c'était une convention temporaire de ne pas réadhérer au CEDIF de 2 ans pour se donner le temps de faire une étude vraiment sérieuse.
Oui.
Pas comme celle qu'a produit le cabinet Calia, on va le citer. Et donc, après, de monter soit un vrai partenariat avec Haute Paris qui a de l'eau à vendre et qui aurait intérêt à vendre cette eau aux 400 000 habitants d'Est Ensemble pour aussi faire baisser le prix de l'eau aux Parisiens. Mm-hmm. Ils ne seraient pas contre, à mon avis.
Mais ouais, mais je vote pour toi.
Non, mais je me présente pas.
Et Clément, président de la communauté.
Ouais, du coup, c'est quoi la suite alors dans cette mobilisation? Parce que là, la consultation n'a pas eu lieu. Ils ont voté, enfin, ils voulaient voter, ça n'a pas pu avoir lieu. Mm-hmm. Donc, c'est reporté. Qu'est-ce qui va se passer après?
Donc, pour
la coordination et pour la lutte pour obtenir.
Concrètement,
une
gestion, on est si un peu dépassé par notre succès parce qu'on ne pensait pas forcément réussir à arrêter les votes. Et ça s'est fait très vite. On a eu 10 jours pour préparer la mobilisation, donc on l'a fait. Donc, on va se réunir à nouveau. Et établir la stratégie. Concrètement, le prochain vote aura lieu mardi prochain. Donc, je peux déjà faire un appel à tout le monde. Venez nous soutenir. On est juste à côté. C'est la banlieue proche. C'est les 9-3 qui est concerné. Et c'est le plus gros. C'est la vitrine de Veolia. Donc, ça a vraiment un impact partout à l'international. Donc mardi prochain vote, il y aura des projections sauvages partout. Donc si vous avez un endroit, une idée d'un endroit où on peut projeter, invitez-nous. Donc voilà, il y a un mail, un contact, c'est moi derrière.
Sur le blog,
il y a le contact, c'est moi derrière.
Il y a une pétition, si j'ai vu, oui. Donc il faut qui est consultable sur le blog.
Oui,
il
aussi. Semble.
Donc c'est o.estensemble. Alors ça, je parle pour la pétition.
Oui.
oestensemble.free.fr. Bon, on tape tout ça sur moteur de recherche et vous le trouvez.
Oui.
Donc voilà, c'est un peu la suite à suivre. Rien ouais. à ajouter. L'eau coule toujours.
Basta.
Veolia, basta.
Et garder le cap.
Oui.
Ouais.
Merci Stéphania.
Merci à vous.
Merci Clément. D'avoir envoyé très très spécial. Et donc là, on enchaîne directement. Bon, on est à l'approche des vacances de Noël et de l'événement de Noël, mais Noël n'est pas que consommation, n'est-ce pas, Rebecca? Et surtout, il y a toujours possibilité d'avoir une alternative.
On est déjà à Noël? Non.
Enfin, ah bah moi je suis passé dans certaines rues de Paris et je vois les pubs à la télé. Oh, hein, donc,
Non, mais c'est vrai que en fait, moi, chaque année, je réalise qu'il est Noël, genre deux jours avant, et mais oh, j'ai rien fait.
Mais tu sors pas de chez toi, Rebecca?
Hein?
Je vois partout dans la rue que c'est déjà Noël.
C'est bizarre, ces écolos, ils sont pas dans le
mais
monde.
Moi, je viens d'une pays anglo-saxonne où en fait, ils commencent à mettre des éclairages de Noël et des trucs publicitaires pour Noël à partir de septembre. Et c'est vraiment ridicule. Mais c'est, en effet, c'est vraiment pour inciter les gens à dépenser déjà. Préparer leur achat, surtout.
Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépenser
déjà,
si on peut dépenser intelligemment?
Il tombe bien que dans deux jours, c'est la journée sans achat qui est censée être une journée symbolique où on n'achèterait rien du tout.
C'est dans combien de temps que je fasse mes courses?
C'est pas très pratique parce que c'est un samedi et c'est le jour où tout le monde fait ses achats. Donc, il faudrait s'organiser pour les faire la veille ou le lendemain. Non, je rigole. Donc, en fait, c'est vraiment...
J'achète deux fois plus.
Si, enfin, il faut quand même réfléchir sur comment fonctionnerait-on si on n'avait pas à acheter les choses. Est-ce qu'on peut fonctionner différemment? Est-ce qu'on peut acheter différemment? Est-ce que nos consommations sont toujours nécessaires? Parce qu'en effet, quand on achète quelque chose avec notre argent, c'est un peu comme si on vote pour quelque chose. C'est un acte politique aussi. Acheter, il y a l'idée de consommation, c'est aussi une façon de voter avec son argent. D'accord?
Donc comment voter bien?
Sans acheter, c'est une façon de dire bah, je refuse d'acheter telle ou telle chose, ou peut-être dans une certaine sorte de magasin où je sais qu'il y a un abus, il y a beaucoup de... Enfin, on peut considérer que certaines enseignes sont vraiment des machines à produire de l'argent pour certaines personnes, mais pas pour les autres, exploiter les salariés, etc., etc. Et puis, il y a d'autres enseignes où, en effet, si un jour, on n'achetait rien du tout, ça pourrait être vraiment catastrophique pour leur petite entreprise, si c'était un petit magasin. Moi, je pense qu'il faut prendre des choses un petit peu... avec un peu de recul, la journée sans achat, c'est une journée pour réfléchir sur les consommations. Mais ensuite, ça me fait penser que, justement, on entame une période, Noël, en effet, ou les fêtes de fin d'année, si on est dans une autre religion, ou Noël, c'est rien. C'est une période où on est incité à acheter, pas seulement acheter, mais tout ce qui fait partie de ça, c'est les emballages, c'est les déchets, c'est les transports, c'est les énergies, tout ce qui va être impliqué dans les fêtes de fin d'année. Réfléchissons
voilà,
un peu à quel est l'impact de tous ces achats sur l'écologie de la planète, sur notre propre bonheur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas simplement réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on a vraiment envie au lieu d'acheter des cadeaux débiles que personne ne veut et qui vont être jetés à la poubelle ou mis en vente sur eBay le lendemain?
Clément, une piste?
Je voulais juste parler du sac à pub direct matin qui fait un super, super truc sur le high-tech. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter pour Noël? En gros, hein, ils nous font tout un catalogue publicitaire gratuit pour les marchands de high-tech dont on se connaît les conséquences écologiques et puis qui coûtent très cher. Voilà quoi. Et qui souvent ne servent pas à grand-chose à part combler... Combler un vide existentiel.
Oh là là, oh, ça y est, on dérive sur la philosophie.
Non, mais c'était juste pour dire que les sacs à pub sont doublement nuisibles. Merci.
Ok. Donc, on finit le digestif. Est-ce qu'on a d'autres... Parce qu'on était là-dedans, hein, en fait. Qu'est-ce que... Il y a une action de boulon? Non, j'ai mal pigé.
Il y a une action anti-pub, en fait, du collectif des déboulonneurs le 27 novembre 2010, donc le jour de la journée internationale sans achat. Et c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Donc, c'est la 48e action parisienne des déboulonneurs. Ça se passe... Donc, il y a un rendez-vous donc à 15h à la sortie du métro Étoile, qui est situé à l'angle de l'avenue donc de Fredland. Et donc voilà, en fait, c'est une action des opérations civiles. Les spectateurs ne craignent rien, vous pouvez venir les soutenir. Voilà, sinon le 7 décembre aussi, il y a une soirée en fait avec Résistance Agression Publicitaire sur une ville qui est sans pub, qui est São Paulo.
São Paulo. Oh,
vous bien. Regarderez un peu sur le site internet pour savoir. Résistance Agression Publicitaire, voilà.
Est-ce qu'on a prévu une petite musique Alors, je sais pas du tout ce qu'on va nous passer, mais c'est comme ça, ça va être la surprise. Rala, tu sais peut-être, non?
Je sais pas, non.
Bon,
je
bah dans ce cas-là, en fait, on va conclure. On va conclure. Donc, c'était la bande à Bébert, 106.3 sur Zoom Écologie. Et comme dit Bébert, salutations écologiques et solidaires.
Jump around, you know.